Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle qu'est l'Évangile pour nous. C'est que la grâce de Dieu, sa miséricorde et sa paix sont sur vous en particulier. Comme si pour Dieu vous étiez son unique enfant. Il nous accompagne avec tendresse. C'est pourquoi de génération en génération, notre espérance est en Dieu et notre reconnaissance va vers lui. Je vous propose d'entrer dans la louange avec cet extrait d'un psaume. Je me rappelle les exploits de l'Éternel. Oui, je me rappelle ton miracle d'autrefois. Je me redis tout ce que tu as accompli. J'en reviens à tes exploits. Ô Dieu, ton chemin est vraiment sainteté. Quel Dieu est aussi grand que Dieu ? C'est toi le Dieu qui fait du miracle. Et ta force, tu l'as montrée parmi les peuples. Par ton bras, tu as affranchi ton peuple, libéré les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu et elles tremblaient. L'abîme lui-même frémissait. Et les nuages ont déversé leurs eaux, les nuées ont donné de la voix. Au roulement de ton tonnerre, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a frémi et tremblé, et dans la terre tu as ouvert ton chemin, ton passage dans les eaux profondes, et ainsi nous pourrons avancer. Je vous propose de prendre le psaume 100, en fait c'est 100b, page 117 de notre psautier. Vous qui sur la terre habitez, c'est la page de droite parce que la mélodie de gauche, on ne la connaît pas trop bien en fait. Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner en toutes circonstances vers Dieu, et nous allons à Dieu comme Jonas au fond du chaos qui l'avait englouti. Il se mit à prier. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'étais dans l'abîme, les courants d'eau m'avaient englouti et je disais, certainement je suis chassé loin de ton regard, mais en fait je verrai encore ta présence. Les eaux m'ont recouvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma gorge. J'ai coulé ainsi jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Dieu, éternel mon Dieu. Et effectivement, en Christ, nous reconnaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous lui faisons confiance. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Son amour parfait chasse en nous toute crainte. Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le cantique 4504, page 683. 4504. Viens habiter dans notre âme. La semaine dernière, j'ai abordé cette drôle de question. Je suis comblé de chance dans la vie. Comment arriver à le vivre? Si vous ne l'avez pas eu, cette prédication, vous pouvez la prendre à la sortie ou sur Internet. Mais cette fois-ci, ce dimanche, je vous propose de nous pencher sur l'autre versant de cette question. Avec celle-ci, je suis accablé de malheur. Comment vivre? En effet, nous sommes toujours un peu entre les deux. Alors je vous propose donc de chercher à creuser cette question. C'est une préoccupation majeure pour l'humain, bien entendu. Une des réponses les plus connues et qui était très célèbre du temps de Jésus, c'est celle du philosophe Épicure au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la lettre qu'il écrit à son ami Ménécée. Épicure présente sa méthode sous forme d'un quadruple remède contre le malheur pour soigner notre être de la douleur et trouver le bonheur. Un quadruple remède, c'est connu sous le nom de tétrapharmakos. Alors nous cherchons effectivement, nous, à élaborer notre propre trousse de pharmacie à la lumière nous-mêmes de la foi du Christ, bien entendu. Alors, pour répondre au défi d'Épicure, pour chercher quel pourrait être notre quadruple remède, j'ai choisi quatre textes dans l'Évangile. D'abord, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? » Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents, mais cela permet que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Deuxième texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 11. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher sept autres esprits encore plus mauvais que lui. Et ils entrent là et ils s'installent. Et la condition dernière de cet humain est pire que la première. Ensuite, dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, Paul nous dit « De la détresse quant à votre humanité, moi, Paul, je voudrais vous épargner. Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que, l'instant ultime étant arrivé, désormais que ceux qui, étant en couple, soient comme non étant en couple, que les pleurants soient comme non pleurants, que les réjouissants comme non se réjouissant, que les achetants comme non possédants, que les utilisant le monde comme non abusant, car la figure de ce monde présent passe sur le côté, et je voudrais que vous soyez, vous, sans inquiétude. » Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, deux passages bien connus, des béatitudes, et puis ce passage que je répète presque chaque dimanche où Jésus nous propose son aide pour avancer dans le poids des souffrances. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et puis huit autres béatitudes. Et puis ensuite, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Amen. Avant même d'évoquer, de décrire donc son quadruple remède, Épicure ouvre sa lettre à Ménécée avec une recommandation qui me semble essentielle. Voilà ce qu'il dit. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à plus tard de philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de son âme. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps pour philosopher est comme une personne qui dirait qu'elle n'a pas le temps d'être heureuse. Donc le premier point essentiel de la méthode que propose Épicure, c'est de travailler sur son intériorité, de s'interroger, de penser, de travailler sur sa qualité d'être. C'est le plus beau des cadeaux à faire à son enfant. C'est plus essentiel même que les études, que le sport, que les loisirs, que la musique, travailler à la santé de son intériorité, au développement de son âme, et s'exercer à cela toute sa vie, comme on s'alimente de pain, d'eau et d'oxygène. Car notre âme est absolument essentielle pour être, évidemment. Et elle est aussi essentielle pour faire face aux aléas de la vie. Et c'est pour ça qu'Épicure commence par cette exhortation, pour tous les âges. Épicure ensuite nous dit que nous avons besoin de prendre un quadruple remède pour notre âme, pour la guérir de ce qui peut nous rendre malheureux. Le tétrapharmakos d'Épicure, c'est de prendre conscience que, premièrement, les dieux ne sont pas à craindre, deuxièmement, que la mort n'est pas à craindre, troisièmement, que l'on peut, en réalité, atteindre le bonheur, et quatrièmement, que l'on peut supporter la douleur. Alors, ces quatre points sont discutables, mais ils sont intéressants, ils sont un appel à philosopher par nous-mêmes, afin de chercher notre propre médicament, notre propre pharmacopée. Alors, c'est aussi à discuter avec nos proches, avec le respect pour leur propre fonctionnement, parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et puis à travailler aussi, au soin de nos âmes, finalement. Nos âmes qui sont si précieuses, qui sont si douées pour le bonheur, et qui sont si exposées en réalité au malheur qui survient par surprise. Jésus nous dit que le malheur vient comme un voleur qui arrive dans la nuit, et il nous conseille, lui aussi, de nous préparer. Cherchons donc à élaborer notre trousse à pharmacie à la lumière de la foi de Jésus-Christ. Alors, pour répondre au défi d'Épicure, j'ai choisi quatre textes et quatre textes seulement, et je commence par celui de Jean au chapitre 9. Ce récit évoque la situation d'un homme qui connaît effectivement le malheur d'être aveugle dès sa naissance. La première chose qui vient à l'esprit des disciples de Jésus, c'est de se demander quelles sont les causes de ce malheur. Jésus est d'accord avec Épicure. En tout cas, ça ne peut pas venir de Dieu. Il n'y a rien à craindre de Dieu. Même si nous étions son ennemi, Dieu n'est donc pas derrière ce malheur. Le mal pourrait effectivement venir des humains, parfois de notre faute, parfois de la méchanceté des autres, oui, ça peut arriver. Cela, nous le savons, et Dieu peut vraiment nous aider à travailler sur ces faiblesses de l'humain. Ça ne peut pas être Dieu, et puis à part les humains, qu'est-ce qui pourrait être source de malheur dans notre vie? Eh bien, il y a cette autre source du mal, c'est le chaos, le hasard, qui est source de chance dans notre vie, comme de catastrophe. C'est injustement réparti. La vie a effectivement un côté de loterie, c'est vrai. Alors ce côté imprévisible de la vie humaine angoisse l'humain. Nous aimerions apprendre comment est-ce que ça marche finalement pour arriver à mieux maîtriser notre existence. Alors l'homme cherche parfois à s'inventer des rites, à s'inventer des superstitions diverses, à s'inventer des sortes de prévisions occultes ou irrationnelles. Tout cela nous détourne des véritables enjeux de notre existence, tant scientifiques que spirituels. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus est excellent, que nous avons ici dans ce récit. Et ce serait finalement mon premier remède contre les malheurs de la vie. Qu'importe le passé, toute douleur du présent est effectivement contraire à la volonté de Dieu. Et donc, cherchons avec Dieu ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau, pour poursuivre la genèse d'un monde plus juste et plus beau. Se détourner du passé et nous tourner activement vers l'avenir. Alors ensuite, en Luc 11, nous voyons la parabole du démon qui revient avec ses amis. Contrairement à ce que dit Épicure, la mort et le malheur ne sont pas rien du tout. Dans le malheur, nous ressentons une peine, parfois une colère, face à ce qui nous frappe effectivement injustement, ou qui frappe ceux que nous aimons. Et la souffrance, la colère est parfois si abominable qu'elle nous atteint jusqu'au cœur même de notre être et nous tombons au fond du gouffre, comme Jonas. Cette souffrance est donc mauvaise et elle est terrible. Mais cette souffrance, cette colère, comprend aussi une énergie, quelque chose de puissant, quelque chose de déterminé, quelque chose qui se révolte contre la souffrance, contre l'injustice. Avec, effectivement, au lieu du bonheur que voulait Dieu pour chacun, le malheur. Jésus propose donc de convertir cette énergie en amour du bien et en action en faveur du bien avec Dieu, faisant équipe et ensemble et avec Dieu. Alors ce n'est pas ce que propose Épicure. Ces médicaments, il chercherait plutôt l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, et l'apathie, l'absence de passion, le détachement. D'autres spiritualités rejoignent Épicure dans cette recherche de la paix intérieure en faisant le vide en soi-même. Jésus nous propose, à mon avis, une démarche diamétralement opposée. Quand il explique que même si nous arrivions à chasser nos propres démons intérieurs, nous pourrions profiter de quelques instants de paix, comme il le dit dans sa parabole, mais nos démons risquent de revenir plus tard avec tous leurs copains en plus. Jésus nous conseille ainsi de ne pas chercher la paix intérieure par le vide, mais par un supplément d'être. Plutôt que de chercher la paix par le détachement, la trouver par l'engagement, comme artisan de paix, comme assoiffé de justice, comme prophète criant dans le désert, au risque de se faire aussi persécuter. C'est le style de Jésus. Épicure nous suggérait à juste titre de ne pas craindre les dieux. Jésus est d'accord, mais il va plus loin. Il témoigne du fait que Dieu est concrètement puissant pour opérer ces retournements de nos démons, la conversion même de nos démons. Et donc mon deuxième remède, ce serait d'ajouter Dieu à notre sagesse pour convertir nos démons intérieurs en énergie active, engagée pour le bien. Et de garder cette bonne idée des anciens démons, devenus sans doute gentils, de cultiver l'amitié. En somme, de chercher ces deux ouvertures, ces deux formes de lien avec Dieu et ces attachements avec les autres. Alors, troisième texte, c'est Matthieu. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus a de longs enseignements qui sont fort riches. Dans ces paraboles essentielles de Jésus, que sont les béatitudes, ces huit promesses de bonheur, heureux qui, c'est un appel aussi à compter sur Dieu, sur Jésus, qu'il a un peu plus loin dans le chapitre 11. Donc nous retrouvons là, effectivement, ce remède qui consiste à faire place à Dieu dans notre vie, non pas tant pour arranger nos problèmes, nous aimerions bien, mais ça ne marche pas comme ça, que pour inspirer notre être et lui donner la force de vie qui est plus forte que tout, que toute tribulation, et même plus forte que la mort. Alors se sentir pauvre en esprit, c'est cela. C'est demander à Dieu plus de son Esprit Saint, plus de son souffle créateur, qu'il travaille en nous, à notre âme, à relever notre âme, et qu'il fasse de nous des êtres vivants, debout, créateurs, source de vie autour de nous. Il y a souvent méprise, en fait, sur ce que l'on entend comme bonheur. Ça vaut mieux de creuser la question pour le rechercher. Le bonheur, ce n'est pas une sorte d'extase dans ce texte de Jésus. En hébreu, heureux et cher, ça veut dire aussi le pas que nous faisons pour avancer. Ça signifie encore être en relation, car Echer, c'est aussi le pronom relatif, si courant en hébreu. C'est donc une ambition modeste mais déterminée de chercher le bonheur avec l'aide de Dieu. C'est connaître le bonheur d'avancer un tant soit peu dans notre être, dans notre relation avec les autres, et de faire un peu de bien autour de nous, de faire avancer. De gagner donc du terrain millimètre par millimètre, et d'y découvrir un vrai bonheur, le vrai bonheur. Oui, allez-vous me dire, mais pouvoir avancer ne serait-ce que d'un petit pas, c'est déjà le privilège de celui qui n'est pas au fond du fond du fond du gouffre. Or, parfois, une souffrance abominable nous vide tellement. Nos démons de colère et de douleur nous submergent et nous prennent à la gorge. Oui, mais jamais totalement, nous dit ici Jésus. En effet, être pauvre en esprit, être pauvre, c'est avoir trop peu pour vivre, c'est vrai, mais ce n'est pas être totalement démuni, c'est avoir pas assez, d'avoir un tout petit peu quand même, mais pas assez. Et l'humain n'est jamais donc complètement vide du Saint-Esprit. L'humain est en réalité comme une bouteille. Même avec les machines les plus puissantes, il est impossible d'y faire le vide absolu, vide de toute particule et de toute énergie, ce qui revient en fait au même. Donc mon troisième remède serait de bien s'imprégner du fait que même le plus abattu des humains, que ce soit nous-mêmes ou un autre, aura toujours un reste de cette énergie vitale qu'est l'Esprit Saint, ce souffle par lequel Dieu crée le monde à partir même du chaos. Le savoir, c'est déjà le rechercher en soi et en quiconque nous voyons être abattu. Dès lors, tout est possible. À commencer par ce gémissement de prière inexprimable dont parle Paul, que pousse l'esprit finalement en nous et qui nous permet de demander à Dieu plus encore de son esprit. Et cela amorce donc une remontée et puis une voix qui nous dit « Tu es mon enfant, tu vivras, tu connaîtras encore le bonheur ». Même si aujourd'hui tu pleures ou tu es persécuté, c'est ça que nous disent ces béatitudes de Jésus. C'est pourquoi Paul nous encourage à ne pas nous assimiler au malheur qui nous arrive. Quand nous sommes malades, nous ne sommes pas un malade, nous sommes une personne. Nous étions déjà cette personne quand nous étions en bonne santé, avant que nous soyons malades, avant la souffrance cruelle et injuste. Nous sommes tout autant cette personne quand nous sommes dans la joie que quand nous sommes dans la peine. Nous étions déjà, nous, cette personne, quand nous avions 5 ans, commençant à apprendre à lire. Nous étions encore cette personne dans les difficultés de l'adolescence, dans l'amour, dans les meilleurs moments, dans les deuils, dans la faiblesse. Tout cela n'est pas rien, bien entendu, mais notre être est d'un autre ordre que cela. Nous sommes aimés, nous sommes connus, nous sommes reconnus, nous sommes nécessaires aux yeux de Dieu, nous sommes sauvés. C'est ce que nous a appris le Christ. Et donc mon quatrième remède, ce serait d'exercer à sentir cela, cette autre temporalité. Et pour cela, prendre peut-être la peine et la joie de prier afin de faire régulièrement un pas de côté dans la course de notre vie, nous désincarcérer un instant de ce qui nous arrive pour sentir que notre personne existe, qu'elle est debout, que son existence est hors du temps qui passe, hors des événements qui nous arrivent. Que notre existence est gardée. Notre aide est en Dieu. Amen. Dans l'évangile selon Matthieu, il raconte le dernier repas qu'ils prirent avec Jésus avant qu'il soit arrêté pour être exécuté. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. »
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui veilles sur nous à chaque instant, toi qui vois nos actes et entends nos paroles, toi qui connais le poids de nos peines et la profondeur de nos silences. Prends soin de nous, Seigneur, de nos corps fatigués, de nos âmes tourmentées, de ces blessures visibles et invisibles, de ces mots qui blessent et de ces mots qui accablent. Dans la solitude de l'épreuve, sois une force, relève-nous quand nous faiblissons, car en toi se trouve refuge et espérance. Rappelle-nous ta présence fidèle, toi qui as promis de ne jamais nous abandonner. Que ton amour nous enveloppe, qu'il éclaire nos pas et soutienne notre foi, afin que, jour après jour, nous avancions avec confiance. Et dans cette confiance, d'une seule voix, nous tournons nos cœurs vers toi et disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.
Merci beaucoup, Marie-France. Et je vous propose de prendre le cantique 2404, c'est page 287 de notre psautier, « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est fort de cette promesse que quiconque le désire peut participer à ce repas, à prendre le pain et ou boire une coupe, en signe de son désir de prendre, d'assimiler tout ce que Dieu nous donne en Christ. Alors en même temps, ce n'est pas obligatoire de participer non plus à ce geste. Il y a de multiples façons de répondre oui à Dieu dans notre cœur. Mais en tout cas, c'est ici une belle occasion de le faire. Je vous propose de vous mettre en cercle, comme vous le pouvez, autour de cette table. Ô Éternel, tu donnes ton souffle à chacun de tes enfants, afin qu'ils communiquent plus profondément encore avec toi en Christ. C'est dans cette confiance que nous prenons le pain et le vin de ton repas. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour chacune et chacun de nous. Alors un grand merci à Marie-France pour la prière, à Isabelle, elles ont préparé toutes les deux le temple, la Sainte Seine pour que nous puissions avoir ce culte, à Norberto pour la musique. Et puis merci, grand merci à vous d'avoir fait ce culte, d'avoir constitué cette assemblée. C'est vraiment ensemble que nous pouvons ainsi, voilà, vraiment faire place à Dieu dans notre existence et lui rendre honneur et gloire. Dimanche prochain, c'est un culte avec dont la prédication sera faite par Andreas Detwiller. Alors c'est un de nos excellents professeurs de la faculté de théologie protestante. Il est spécialiste en Nouveau Testament, mais en plus c'est un protestant engagé. Il est conseiller de paroisse à Saint-Pierre. Et donc c'est une occasion peut-être aussi de le découvrir parce qu'il propose souvent des cycles bibliques à la faculté de théologie qui conviennent tout à fait à chacune et chacun d'entre nous pour essayer d'avancer d'un pas dans la découverte de ces textes si importants. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que c'est une façon aussi de replacer notre vie en perspective. Et pendant l'offrande, eh bien, nous prenons ce chant 41-10, page 576. Bénissons Dieu notre roi. Effectivement, nous bénissons Dieu et Dieu nous bénit. C'est ce qui fait une articulation entre Dieu et nous et c'est précieux. Cantique 41-10.
Thank you.
et nous recevons la bénédiction de Dieu selon les paroles de Moïse dans le livre des Nombres. L'Éternel te bénit, toi, et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie. Amen.